ici.
Ici, soirée spéciale Daniel Balavoine, 40 ans après sa disparition. Jusqu'à 23h, écoutez le feuilleton « Je ne suis pas un héros » réalisé en 1996.
Mais Dieu, que l'amour est triste, la vie.
Là, on est au bord de la mer. Tiens, on dirait même l'océan. Normal, on est au Pays Basque. C'est ici que Daniel a appris à nager avec sa sœur Claire, sa grande sœur. La souche de la famille Balavoine est en Picardie. Jusqu'à ce que la grand-mère basque, celle qu'on appelait Amachi, rencontre le grand-père en Sologne. Rajoutez à ça que Daniel, le petit-fils, est né à Alençon, en Normandie, avant de grandir à Bordeaux, Pau et Biarritz, donc au bord de l'océan. Normal, on est au Pays Basque.
Quelque chose qui n'était pas fréquent à l'époque, ses parents étaient séparés. Ce qui avait expliqué qu'ils soient pensionnaires. Donc au départ, il faut savoir que le berceau de la famille, c'est à Aire-sur-Adour. Et que là-bas, autrefois, ils avaient une gravière, le grand-père. Son père, Daniel, étant ingénieur des mines, il a été muté au gré de sa vie professionnelle. C'est pour ça que Daniel est né à Alençon. Mais en fait, il était profondément du sud-ouest, ce qui explique que autant le grand-père que le père étant de la région, ils sont tous venus, tout naturellement, habiter à Biarritz ou à Pau. Et donc le gosse était pensionnaire, comme souvent dans les familles de parents qui sont séparés.
Jacques Durruty a rencontré Daniel Balavoine à Saint-Joseph. À Asparin. Daniel avait 8 ans et Jacques, élève en seconde, avait la responsabilité des plus petits en pension. Saint-Joseph, puis Cendrillon à Dax et le lycée à Pau, Daniel a suivi toute sa scolarité en pension.
Eux, les garçons,
Claire Balavoine,
étaient pendant une certaine période en pension. Bernard parti à Bordeaux pour faire ses études de médecine. Et les plus jeunes ont été en pension quand même, parce qu'à l'époque, on mettait les gosses en pension. Puis il y avait les curés, les nonnes et tout ça, quoi.
Pourquoi chez le curé? Je crois que ça correspond à l'époque, en fait. C'est que les pensions, à l'époque, étaient presque toutes religieuses.
Ceci dit, j'ai des souvenirs inouïs. Daniel à Cendrillon, à Dax, il a des souvenirs insupportables comme adorables, quoi, comme tout gosse. Bon, la conjoncture des familles, c'était comme ça. C'était peut-être mon genre aussi, mettre les enfants en pension. Puis, enfin, faut dire aussi que les réels d'enfants, c'est pas facile à élever, hein.
En fait, c'est très difficile, quand on a vécu une partie de sa jeunesse dans ce pays, de ne pas y revenir. Parce que c'est vrai qu'il y pleut, c'est vrai que tout ce qu'on veut, mais il est quand même très agréable à vivre, et il y a surtout une façon de vivre qui ressemble à rien d'autre. Et donc, en fait, le Pays Basque, pour la plupart des gens qui en sont originaires, ça n'est rien de plus qu'un endroit où on vient pour retrouver ses origines, ses habitudes et ses amis. Je crois que c'est ça la constante, parce qu'en fait, chaque fois qu'il a eu un moment de trouble, ou une nouvelle femme, ou une nouvelle galère dans sa vie, Il est toujours venu se ressourcer ici, auprès, si vous voulez, de ceux qui étaient restés de sa famille dans la région, d'une part, et auprès des quelques amis que nous étions ici, parce que c'est bon de venir voir des gens quand on est connu et que ces gens vous accueillent comme une personne et pas comme une célébrité.
Moi, les grands souvenirs que j'ai de Daniel, c'est quand je faisais pas mal de natation, quand, entre autres, j'étais à Biarritz, et où était, lui était pitchoun. Et Daniel venait s'entraîner plus ou moins avec moi à la piscine. Il me suivait dès que je faisais une traversée en mer ou en rivière. Daniel venait avec mon entraîneur. Il me suivait, il m'attendait à l'arrivée, il soulevait les cordages des bateaux pour que je puisse bien passer. Je pense que là, il a dû avoir une école de bagarre, de courage, de lutte. Et c'était mon premier supporter. Et il me lâchait pas, quoi, c'est sûr. Bon, après, les choses sont un peu inversées. Je l'accompagnais. J'étais son infirmière, son kinésie. J'ai jamais eu à le soigner, si ce n'est quelques piqûres. Mais bon, du fait de la fragilité de sa voix, et s'il y avait une infirmière qui devait intervenir, c'était moi, bien entendu. Je l'accompagnais au niveau des paliers des sports, et tout. S'il avait le moindre problème, je suis là pour une crampe ou autre chose. J'ai jamais eu à intervenir. Mais je devais être là. Dès l'instant qu'il arrivait au palais, j'étais là. Et je partais quand il partait.
Et la femme entre dans l'histoire.
1996, François Genis racontait Balavoine avec ceux qui l'ont connu. Ce soir sur votre radio ici, Archives et Souvenirs. Je ne suis pas...
Mais Dieu que l'amour est triste.
Alors, de ce que je m'en souviens, un enfant vif, espiègle, un petit peu plus chahuteur que d'autres à cet âge-là, dû surtout au fait que quand on vit comme ça, en pension, et une partie de la semaine, et puis l'autre partie de la semaine à la maison, on a un caractère dans lequel on est obligé de privilégier l'amitié, puisque en fait, on passe 5 jours sur 7 en pension. Donc, en général, ce sont des gosses qui sont plus éveillés que d'autres. C'est tout. Alors, c'est ça le souvenir que j'en ai gardé. Un gentil branleur comme peut être un môme de 10 ou 11 ans. Quoi.
Jacques Durruty, l'ami d'enfance. Dans la famille Balavoine, je veux. Tiens, le petit. Le dernier. Daniel. 5 février 1952, Alençon. Madame Balavoine a le plaisir de vous annoncer la naissance de son 7e enfant. 7 enfants. On n'a plus l'habitude aujourd'hui. Ça, si je ne m'abuse, ça s'appelle une famille nombreuse. 5 garçons, 2 filles. La tablée magnifique. Famille nombreuse qui déménage au gré des lieux de travail du père, un ingénieur est souvent par Mont et par Vaux. Le petit dernier, donc, Daniel, est espiègle, en pension, au collège. Et bien sûr, c'est là que la musique le prend, non ? À moins que ce ne soit un héritage. Dans la famille Balavoine, je demande la grande sœur, Claire.
Bon, maman était une grande pianiste en matière de musique, donc ça a dû laisser des traces, génétiquement parlant, quelque part. Hein, d'autant que Daniel a retrouvé la musique comme ça à l'oreille, hein, dès qu'il a chippé la guitare à Bernard. Bon, ben lui, il a recherché les sons, glong, glong, glong. Puis c'est venu comme ça, il n'avait rien appris. Après, bon, il a fait un effort de solfège pour l'écriture, pour son plaisir aussi. Après, ça venait tout seul, mais sinon, il a tout redécouvert. On peut dire qu'il s'est redonné l'outil. Hein. Enfin, il a extirpé de ses tripes. Extirpé, oui, c'est ça, on peut le dire. Oui.
Il avait trouvé sa voix, c'est-à-dire qu'il voulait faire de la musique. Et il avait donc monté un premier orchestre. Et il faisait ce qu'on appelle les pinche-cul, si vous voulez, à Pau, à Mauléon et dans tous les petits bleds du Pays Basque, où il faisait, comme ça existe maintenant, des petits orchestres et des soirées dansantes. Voilà ce qui s'est passé, si vous voulez, entre 12 et 18 ans. Et il n'avait pas vraiment de carrière professionnelle au sens traditionnel, si vous voulez. Il était illustrement inconnu, mais quand on le remet dans le contexte, c'était en 1970, il s'est beaucoup intéressé à faire des petits bals le soir. Le look, si vous voulez, c'était déjà les tennis, déjà les cheveux très longs. Ce qui, à l'époque, se faisait déjà presque plus. Et il a gardé les cheveux très longs, c'est-à-dire pratiquement jusqu'en 80, je dirais au moins 5 ou 6 ans plus tard que tout le monde.
Papa et maman étaient séparés à l'époque. Papa vivait dans le sud-ouest. Papa avait mal vécu, c'était un intellectuel quand même. Et il avait mal vécu que Daniel abandonne les études, quoi. Bon. Mais d'ailleurs, Daniel était d'une détermination farouche, irréversible. Donc papa, c'est pas qu'il a baissé les bras, il n'a plus pu dire non. Et de toute manière, la machine était en marche. Maman était contente parce que Daniel se révélait dans la musique, qui était une de ses passions. Et puis elle voyait un gamin quand même. Maman a chanté dans le disque Les Aventures de Simon et Gunther. C'est elle qui chante, c'est la maman des frères juifs qui disent que leur père, Daniel, a fait ce cadeau à maman, qui ignorait totalement le livret d'ailleurs, avant de chanter. Et là, maman, c'est vrai qu'elle était très heureuse de découvrir son fiston sous ces deux aspects d'écriture et de compositeur, sans compter qu'il n'aurait fait que ce disque-là, c'était déjà magistral, parce qu'il a mené un orchestre, il a fait venir des chœurs, il a fait un truc vraiment remarquable. Maman était très heureuse, très fière.
Tu vois mon petit, c'est pareil ici. Ne dis rien à tes amis. Mais
des affinités que j'ai davantage avec mon frère Yves et que j'avais avec Daniel. Avec Daniel, j'avais pas beaucoup à parler, quoi. On avait pas beaucoup à parler. Surtout quand il a commencé à naître au tout début et tout, enfin, naître au niveau de l'artistique. J'avais des problèmes de santé, donc j'étais plus disponible. Et donc j'avais du temps de libre et j'en passais pas mal avec lui pour ce qui m'a aidé à tenir le coup pour beaucoup de choses, quoi, à l'époque. Et qui m'a fait d'ailleurs vivre Daniel comme un artiste, mais c'est ça qui est drôle. Je me souviens pas de Daniel artiste, quoi, un gamin qui aimait écrire, qui faisait de la musique. Je ne l'ai jamais vécu comme un artiste, quoi.
Ce soir, votre radio ici rend hommage à un grand nom de la chanson française, Daniel Balavoine. 40 ans après sa mort, nous diffusons une archive exceptionnelle réalisée en 1996 avec tous ceux qui l'ont connu.
Mais Dieu, que l'amour est triste. Thank you.
1971, le Golf Drouot à Paris. Sur scène, le groupe Présence et son chanteur, Daniel Balavoine.
À quelques copains qui étaient dans la galère aussi.
Claire Balavoine.
Et au départ, il n'était pas question de se faire trop aider par les parents, quoi. C'était une question d'orgueil aussi. Et il a commencé à faire des petits. Il a fait avec Présence, puis après Vogue. Puis ensuite, la Révolution française, il traînait dans tous les studios, il était choriste à droite à gauche, et puis il s'est fait repérer, puis c'était la Révolution française. Et puis Patrick Juvet cherchait un choriste avec une voix super, il a trouvé Daniel, tac, il l'a épinglé. Daniel a travaillé avec lui pour le disque Chrysalide chez Barclay, et toc, Léo Missire passait par là, il s'est dit, oulala, ce petit-là, il me plaît bien, et puis le reste, vous le savez, hein.
Retour en arrière. 1974, le nouvel album de Patrick Juvet sort dans le commerce. Son titre, Chrysalide. Une pochette où l'on voit le chanteur vedette assis au piano, la tête tournée vers un micro, le tout baignant dans une lueur rouge. Ah, les années 70.
Patrick avait fait pas mal de disques, dont la réussite de la Musica. Et on voulait prendre un tournant, là. Il nous fallait donc des choristes et ce qu'il y avait de mieux comme musicien. Donc j'ai pris ce qu'on appelle dans le métier les requins de studio, ceux qui faisaient les disques. Et on a fait des auditions pour avoir les meilleurs choristes. Et les frères Balavoine sont arrivés là. Et cette Olympia a été enregistrée en live. Et c'est pas Patrick qu'on entend chanter, c'est Daniel. Parce que Daniel avait déjà une voix extraordinaire. Je crois qu'il était sur 3 octaves, Daniel. Donc, toutes les voix de tête, il doublait la voix de Patrick, mais comme la voix de Daniel était beaucoup plus. C'était plus une vraie voix. Je veux dire, Patrick avait un vrai physique et Daniel avait une vraie voix. Et à partir de ce moment-là, il est rentré dans notre vie. Et. Il nous a plus quitté pendant un an.
Florence Aboulker, conseillère artistique. Le succès de Patrick Juvet est un véritable moteur pour toute la bande. Car il s'agit bien d'une bande. Florence, Patrick Juvet, Andy Scott déjà, et Daniel Balavoine. Et tout ce monde s'installe dans la même grande maison. Une vie collective qui va souder les destins et les carrières des uns et des autres.
On était sa famille. Et dès que Patrick quittait le piano, j'entendais Daniel se mettre au piano. Parce que Daniel nous avait jamais dit qu'il voulait chanter, composer. Jamais. Et une nuit, je l'entends au piano, composant. Donc, le lendemain, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je fais une chanson pour toi qui s'appelle « Elle reprisait mes chaussettes ». Je lui dis... Cette maison, il y avait une piscine qui était à côté de la salle de musique, piscine couverte et un sauna. Et Daniel, il n'était jamais en demi-teinte. a appris un sauna, parce qu'il avait toujours eu ce problème de poids, donc il était obsédé par les régimes et le désir de maigrir, parce que ça le complexait beaucoup. Et il a fait un sauna trop chaud, il s'est plongé dans la piscine, et là, raide. Donc un des musiciens a plongé, Patrick est allé, et on l'a sorti, bon, c'était pas le jour, Dieu merci. Et moi après j'ai eu peur, et on a vendu la maison.
Une page se tourne. La maison vendue, Patrick Juvet continue sa vie artistique. Daniel commence sa carrière de chanteur à part entière, et Florence Aboulker l'accompagne dans ses débuts. La rupture viendra à peine plus tard. Florence quittera le monde du showbiz pour celui de l'écriture, peu de temps après le lancement du premier album de Balavoine.
Daniel, j'avais promis de lui faire un lancement extraordinaire. On avait décidé que ce petit loubard, avec les cheveux frisés, j'allais l'habiller dans un costume trois pièces en flanelle rayée et qu'on ferait une conférence de presse au Ritz. Donc avec Daniel, on est allé au Ritz, voir les grands salons, les dorures, et puis je trouvais ça tellement insensé de mettre Daniel dans les dorures que ça l'a amusé lui beaucoup. Donc on a tout préparé, on a envoyé les invitations. Et trois jours avant la conférence de presse, quelqu'un chez Barclay me dit « Mais tu es folle de faire la conférence de presse de Daniel ce jour-là. Phonogramme fait un séminaire, je ne sais plus où, enfin, où ils allaient ramasser tout le métier. » Et là, j'ai paniqué. Et j'ai dit à Daniel, la baraka me lâche, donc on annule tout. On pète tous un peu les plombs hein, quand ça marche. Donc on a pété les plombs.
Comme ces enfants de putain qui chantent les années 60, style Bob Dylan, qui nous refourguent des chansons de rien, juste pour nous piquer nos femmes. Petit malin chanteur de demain, sur de grands refrains d'hier. Piquer un sac, oh, même un vieux, bah y'a vraiment pas de quoi être fier. Ni être heureux.
Ici, soirée spéciale Daniel Balavoine, 40 ans après sa disparition. Jusqu'à 23h, écoutez le feuilleton « Je ne suis pas un héros » réalisé en 1996. Je ne suis pas...
Mais Dieu que l'amour est triste.
Sa voix est certain que peu de gens avaient prévu qu'il se percerait là-dedans.
Claire Balavoine.
Avec la voix qu'il avait, quoi. Tout le monde sait qu'il avait une... Ça sera avec cette voix-là ou avec rien. Et ça passera comme ça ou je ferai autre chose. Il était très fier de sa voix. La vie...
Une voix. C'est bien ce qu'on appelle une voix. Trop particulière, disaient les professionnels en 1975. Manière élégante de dire qu'une voix aiguë comme celle-là, pour un homme, ça n'est pas forcément viril. Et les professionnels d'ajouter « le public ne suivra pas ». Ce sont les mêmes qui affirment que « le public a toujours raison ». Et pour cette dernière affirmation, nous les croirons sur parole. Parce que le public a suivi Daniel Balavoine, même si en radio, les producteurs sont restés sceptiques durant quelques années. Jean-Louis Foulquier, France Inter.
Justement, Daniel Balavoine, une des premières fois où je l'ai rencontré, j'avais dit, bon, c'est bien, mais alors moi, il y a une chose qui me choque, c'est un peu ta voix. J'ai du mal à m'y habituer. Et alors, ça l'avait bien fait rire à l'époque. Il m'avait dit, t'as tort, parce que tu vas voir, ça ira très loin. Il avait raison. Et j'ai connu vraiment à ses tout débuts où il venait. Bon.
C'était les mélodies qui étaient primordiales pour moi. Et le timbre de voix. Un timbre de voix, pour moi, c'était comme un instrument de musique. Et j'ai entendu ce timbre-là. J'avais jamais entendu un timbre comme ça. Je me suis dit, c'est ce timbre-là, je vais faire un malheur avec.
Visionnaire. Léo Missire était visionnaire. Et dès la première rencontre, le producteur savait que Daniel pouvait séduire le public avec sa voix, mais il n'imaginait sûrement pas que les obstacles se dresseraient devant lui avec tant de vigueur.
Alors, je vais vous dire, ça a été archi difficile. Déjà, au départ, je ne suis pas arrivé à la vendre dans la société même où je travaillais. Barclay est allé même beaucoup plus loin. Il m'a dit, écoute, Léo, tu vieillis très mal, tu ne comprends plus rien. Avec ce timbre de voix et le physique qu'a ce garçon, ça ne marchera jamais. Seulement, la qualité d'Eddie Barclay quand même, c'est même quand il disait ça, il vous laissait travailler.
Dis-moi combien il faut que je te paye pour m'inventer une nuit de soleil, réponds. Un chemin.
la voix dérangée, elle est étonnée.
Monique Lemarcy, RTL.
Moi, ce qui m'a toujours intéressée, c'est les tempéraments. Les tempéraments, les personnalités et l'émotion que peut dégager un artiste. Et c'est vrai que tout cela était déjà présent chez Daniel. Et en plus, avec cette rage de jeune garçon, mais qui avait envie de donner des coups de poing partout, ça c'était évident.
Comme dès le départ, il avait une voix dite haut perché.
Jacques Durutti.
Dès le départ, il a réussi à travailler sur plusieurs octaves et à parler doucement et bas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a même des chansons comme « Je ne suis pas un héros » où il arrivait à descendre assez bas. Donc en fait, il parlait doucement parce qu'il savait que s'il parlait fort, sa voix montait. Donc il parlait doucement et il parlait calmement. Et si vous regardez dans les interviews, dans les émissions de télé ou les trucs comme ça, il n'y a qu'à partir du moment où il perd un petit peu son self-control que sa voix monte. Sinon, toute la phase dans laquelle il se maîtrise, il ne parle pas fort et la voix reste. Je ne crois pas que ça l'ait traumatisé parce que c'est vrai qu'un beau jour, ça a été un plus et qu'il l'a utilisé. Ça ne l'a pas dérangé quand il était adolescent.
Oui, parce qu'il avait une voix qui...
Claude Sérillon.
Qui était à contre-temps des voix de chanteurs normaux, crooners ou autres. Enfin bon, c'était très aigu, très pointu. Il y a des gens qui ne supportent pas la voix de Barbara. J'irais toute proportion gardée. Voilà, il a une voix qui était un peu comme ça, qui était avec un tempo particulier, qui était avec une sonorité particulière, une phonétique particulière. C'était en plus une voix très moderne, très liée aux cris des gens dans la rue.
Pourquoi je vis ? Pourquoi je meurs ? Pourquoi je ris ? Pourquoi je pleure ? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau. Qui m'attire vers le haut, grand loto de l'univers. J'ai pas tiré mon numéro. Je suis mal dans ma peau. J'ai pas. Pourquoi je crie, pourquoi je pleure. Je crois capter des ondes venues d'un autre monde. Monde à l'envers. J'aimerais mieux.
En 1996, François Geny racontait Balavoine avec ceux qui l'ont connu. Ce soir sur votre radio ici, Archives et Souvenirs.
Mais Dieu que l'amour est triste.
Il y en a un qui croyait autant que moi, si vous voulez, à Balavoine, c'est Michel Berger. Parce que si vous voulez, lui, il a eu exactement les mêmes réactions que moi. C'est le timbre de voix de Daniel qui l'avait séduit. C'était pas les chansons de Daniel au départ, c'était son timbre de voix. C'était la même chose. Et si vous voulez, il avait des idées aussi spéciales que moi, si vous voulez, puisque tout le monde disait à Berger, mais comment tu vas engager une voix comme ça, un peu féminine, pour faire Rockefeller, qui était un russe, un gars rude. Et lui disait, non, non, c'est cette voix-là qui me vaut.
Léo Missire a bonne mémoire. Sauf que Johnny n'était pas Rockefeller, mais Roquefort. Starmania, ou la passion de Johnny Roquefort selon les évangiles télévisés. On connaît tous l'histoire de cet opéra rock qui, dans sa première version, voyait Daniel Balavoine sur scène avec, entre autres, Fabienne Thibault, Diane Dufresne et France Gall. Émotion, amour, guerre, colère, les uns contre les autres. Pour Daniel, les 26 représentations seront éprouvantes. Mais le bonheur est tel que sa voix tiendra. Il ne se fera pas remplacer. Dans les coulisses, les radios périphériques s'affrontent. Monique Lemarcy, RTL.
Starmania était sponsorisé par Europe 1. Ce n'est pas nécessaire que je rappelle le combat qu'il y avait entre RTL et Europe 1 à l'époque. C'était vraiment des situations de concurrence très forte. Et je me souviens, Jean Farah me dit, enfin, Monique, vous allez faire le succès d'une opération d'Europe qui est Starmania. Je dis, il y a deux choses à dissocier. Starmania est une chose, le chanteur Balavoine en est une autre.
C'est quand même toujours bizarre de recevoir un coup de téléphone pour être invité à participer à une aventure pareille. Je veux dire, c'est toujours quelque chose d'étonnant. Puis on s'habitue vite quand même, ne serait-ce que de par le plaisir. On s'habitue quand même assez rapidement. On s'habitue moins vite au personnage parce que c'est vraiment pas mon style, en fait, finalement. Ça m'a servi même pour moi d'ailleurs. Pour
le personnage.
Le personnage m'a servi, oui. Ouais.
J'ai pas connu les parents de Daniel.
Florence Aboulker.
Je pense qu'ils viennent d'une famille bourgeoise, Daniel. Parce que ça se sentait une manière d'être, de se comporter. Mais il jouait le loubard. Hein. Il revendiquait quelque chose de ce côté-là. Avec ses petits blousons, ses. Il a joué loubard. Et quand on est allé enregistrer à Londres, physiquement, avec ses fringues, il le jouait loubard. Donc c'est normal qu'on lui ait donné le rôle de loubard. Où je chantais mes chansons comme je pouvais, peut-être un peu comme un choriste, des fois un peu tristement. Et puis non, c'est vrai. Et puis finalement, j'étais obligé de chanter les chansons écrites par quelqu'un d'autre, ce qui m'était non plus jamais arrivé. Et on se dit quand même, faut pas que j'ai l'air trop bête, faut peut-être que j'y mette un peu d'énergie. Et
Puis c'est bien finalement.
Alors c'est l'expérience d'interprète, mais est-ce qu'il y a autre chose tout de même dans, je dirais, cette rencontre avec Berger et Plamondon? Est-ce qu'il s'est passé pendant l'enregistrement ou pendant la préparation de l'opéra, est-ce qu'il s'est passé des aventures? Est-ce qu'il y a eu des rencontres particulières?
Oui, oui, il y a eu des rencontres fantastiques. Bon, d'abord, il y a eu la rencontre avec Michel et avec Luc, et puis ensuite, il y a eu la rencontre avec certains musiciens d'envergure extraordinaire, et puis la rencontre avec d'autres artistes français que parfois je ne connaissais pas et qui eux sûrement ne me connaissaient pas non plus, ce qui est important aussi. Il y a eu des événements, des choses bizarres, bien sûr, comme dans tout ce genre d'histoire. Mais finalement, il y a eu un contact assez silencieux. Enfin, en tout cas pour moi, c'est un contact assez silencieux. Tout le monde se regardait plus ou moins en disant comment il va chanter en arrivant, comment l'autre va chanter.
Ça, c'est dans sa tête que ça se passait.
Si, Non. Je crois que c'est un peu comme ça, mais avec un regard bienveillant.
Quand tout le monde dort tranquille dans les banlieues dortoirs, c'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings? Qui met le feu au building? C'est toujours les honnards. Alors c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard quand on arrive en ville. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux. Être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps là. On arrive en ville, on arrive de nulle part. On vit sans domicile, on dort dans des hangars. Le jour on est tranquille, on passe incognito. Le soir on change de peau et on frappe au hasard. Alors préparez-vous pour la bagarre quand on arrive en ville. La ville souterraine est plongée dans le noir. Les gens qui s'y promènent ressortent sur des brancards. On agit sans mobile, ça vous paraît bizarre. C'est peut-être qu'on est débile, c'est peut-être par désespoir. Du moins, c'est ce que disent les journaux du soir quand on est.
Ce soir, votre radio ici rend hommage à un grand nom de la chanson française, Daniel Balavoine. 40 ans après sa mort, nous diffusons une archive exceptionnelle réalisée en 1996 avec tous ceux qui l'ont connu.
Je ne suis pas... Mais Dieu, que l'amour est triste. La vie...
relationnel avec nous, on n'a jamais observé de changement.
Jacques Durutti.
Le seul petit truc, c'est que, si vous voulez, dans la période après 80, on peut considérer qu'il était plus affirmatif dans ce qu'il disait, qu'il avait acquis des certitudes, alors qu'au départ, c'était des doutes. Mais ça, c'était dans le verbe. C'était quand il y avait du public ou c'était quand dans un restaurant, il y avait du monde. Quand on discutait tous les deux dans une voiture ou à la maison, contrairement à ce qu'il disait, il avait encore des doutes.
Mais qui n'en a pas de doutes ? C'est vrai, le succès explose les têtes les plus solides. Tous les témoignages concordent. Sortir de l'anonymat du jour au lendemain, être reconnu, risque de vous perdre. Le succès est un révélateur. Il ne rend les gens ni moins intelligents, ni plus cons, si je puis dire. Tout dépend du potentiel de départ. Daniel Balavoine, donc, est resté fidèle à lui-même quand la bise du succès fut venue. Mais la bise a emporté avec elle la rançon de la gloire. L'argent. Beaucoup d'argent. Florence Aboulker.
Pendant toute notre époque à nous, il gagnait sa vie comme choriste. On l'emmenait en voyage, on l'emmenait en vacances, bon, mais c'était pas de l'argent. Il a été dans la dèche longtemps. En plus, c'était un partageur, Daniel. C'était un généreux. Donc, il a dû faire comme nous tous, d'ailleurs, culpabiliser, parce qu'on le vit mal, le fric. Un peu de fric, ça va, mais beaucoup de fric, on est mal, on sait pas. On n'a pas l'impression de le mériter.
Flambeur d'oseille dans l'Afrique, j'ai le sens des affaires. J'ai même été un des meilleurs chasseurs de prime avant de vendre ma mère. J'ai tout organisé pour détruire la ville, pour construire des banques, des salles de jeux subtiles.
Qu'il a gêné, c'était l'argent.
Claire Balavoine.
Le rapport à l'argent, c'est-à-dire, bon, il s'est mis à gagner beaucoup d'argent. C'est pas arrivé tout de suite, parce que vous savez que les royalties, ça tombe 18 mois après. Mais cette disproportion entre, bon, l'énergie que maman ou d'autres mettaient à travailler 8 heures par jour, et c'est ce que le commun des mortels gagnait, et ce que lui, tout d'un coup, blanc, recevait. Et ça, alors, il était très mal à l'aise de gagner autant d'argent en si peu de temps, quoi. Il se culpabilisait. Et puis après, il a décidé que bon, c'était le système, que c'était comme ça, que de manière, il donnait ce qu'il fallait pour que ça fonctionne, et qu'il est redevenu maître de lui. Mais il a été déstabilisé quand même pendant un an, sans compter que après le chanteur Estermania, il y a eu quand même bon, toutes les galas, l'Olympia, le deuxième, tout ça, c'était, et puis toute la pression du milieu, quoi, les médias, c'était très très aspirant, très. C'est vertigineux, quoi.
Oui, je crois que c'est vrai. Je veux dire, il ne faut pas se casser les choses. C'est un lapsus significatif. Il ne faut pas se cacher les choses. Je vis bien aussi. Hein. Je profite de ma situation sociale également. Je crois effectivement que je n'en abuse pas. Et je crois surtout que j'essaie de la partager avec les gens qui m'entourent. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent avec moi et qui sont, je l'espère en tout cas, contents de le faire. Je sais que moi, je suis très heureux qu'ils travaillent avec moi. J'essaie de leur rendre sentimentalement, financièrement. J'essaie d'avoir une attitude le plus juste possible, et je crois que de par nature, je suis un peu quelqu'un qui partage. Mais effectivement, je suis aussi un homme, je crois, relativement normal, et je ne partage pas tout. Malheureusement, j'essaye chaque jour de partager un peu plus de choses, j'espère que j'y arriverai.
Qui ose dire qu'il peut m'apprendre les sentiments pour me montrer ce qu'il faut faire pour être grand? Qui peut changer ce que je porte dans mon sang? Qui a le droit de m'interdire d'être vivant? De quel côté se trouvent les bons ou les méchants? Leurs évangiles ont fait de moi un non-croyant.
rien. Je voulais juste un peu parler, choisir un train. La vie ne m'apprend rien. J'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin.
Janvier, écoutez ici, on vous offre 10 000 euros de vacances.
Ici.
Et